cet ouvrage. Donc je vais passer tout de suite la parole à Patrick Bouchain. Est-ce que je dois encore introduire Patrick Bouchain à un public censé s'intéresser au bois ? Alors, disons que Patrick Bouchain a construit de façon consciente et de façon réfléchie avec du bois déjà depuis longtemps. Il a réalisé plusieurs projets, il a réalisé des grands projets. Je ne sais pas, le théâtre équestre Zingaro, c'est 1989 et c'est toujours là. C'est de l'éphémère qui dure. La Grange au Lac, juste en face, et qu'il faudrait quand même aller voir. 1993, elle est toujours là, elle est très bien. Pour la plupart des architectes qui revendiquent une approche, on peut dire, critique, écologique et sociale, holistique de la construction, il faut le dire, Patrick, vous êtes un modèle. Hein, vous avez construit pas seulement en bois, mais vous avez aussi donné l'occasion à d'autres gens de construire et à faire un peu voilà, un travail à suivre ce travail-là. Finalement, je signale quand même le travail que vous avez entrepris depuis 3 ou 4 ans sur la question des normes avec le permis de faire et cette idée d'une libéralisation de la norme constructive sur des critères expérimentaux et sociaux, quelque chose qui est bien parti mais qui s'est plutôt mal terminé, peut-être que vous allez nous en dire deux mots, et qui reste quand même une très belle initiative en France pour essayer de repenser le contexte normatif et le cadre législatif qui permet de construire et le repenser dans une logique, on peut dire, sociale, participative, c'est-à-dire faire en sorte que les gens deviennent un peu plus impliqués dans les lieux qu'ils occupent. Alors peut-être, mais je vais te laisser peut-être prendre la parole et nous raconter ce que tu as envie de raconter.
Non, je n'ai pas d'image, parce que voilà, j'ai décidé de me défaire de tout et de ne garder que mon crayon. Et donc j'ai donné la totalité de mes archives à le micro. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas avoir le chauffage. Parce que j'ai vu que le chauffage était perturbant. Voilà, j'ai décidé de me défaire de tout et de considérer qu'on pouvait vivre sans rien. Et j'ai donc donné toutes mes archives. Et donc, quand Christophe a demandé de donner des photos, j'ai pris mon appareil portable, parce que j'en ai un, et j'ai pris les photos dans un livre. Donc, ça sera peut-être de pas très bonne qualité. Non, justement, très tôt, je me suis rendu compte que ce qui comptait dans la construction, où ce qui comptait dans l'architecture, c'est le moment où elle se réalise. C'est-à-dire que c'est le moment où elle se construit. Et qu'on parle très peu de ceux qui construisent les bâtiments que l'on conçoit ou que l'on utilise, voire même ceux qui construisent nos bâtiments, des fois, n'ont pas de logement. Voilà, donc je me suis dit quand même, il y a un problème. Comment peut-on demander une exigence telle à des gens qui travaillent dans une condition sociale telle, voire même dans une condition de travail telle, quoi, parce que il suffit d'aller sur un chantier pour s'apercevoir que voilà, les conditions ne sont pas toujours requises pour travailler dans de bonnes conditions, ne serait-ce que la pluie ou la neige. Et donc très tôt, j'ai pensé que le chantier était le moment privilégié et que peut-être les documents que l'on produisait aux entreprises et principalement aux ouvriers qui réalisaient pour l'entreprise, les documents étaient des documents, en fin de compte, illisibles. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lecture possible du sens de l'objet à construire. Il y avait éventuellement une lecture possible de l'exécution du dessin, mais qu'il n'y avait pas de lecture sensible de l'architecture à construire. Et donc, quand on regarde dans l'architecture que l'on aime, quand on voyage dans des pays étrangers, ou quand on regarde une architecture paysanne ou vernaculaire, quand on regarde une architecture religieuse, donc qui est fortement chargée de sens, on peut dire que ce qui nous impressionne d'abord, c'est cet enchaînement des tâches que sont la commande, qui est quand même déterminante, la conception, la construction et son usage. Voilà. Ce n'est pas un usage au sens d'un usager qui consommerait une architecture, mais c'est peut-être un usager qui est porteur du sens de l'architecture par la croyance à laquelle il croit, voire la société démocratique dans laquelle il est. Et donc, très tôt, je me suis dit, je ne vais plus dessiner préalablement, mais je vais raconter. Et en racontant, j'accompagnerai de ma main le récit de ce que je fais pour que ma main accompagne la main qui construit. Donc, c'était assez compliqué parce que pour certains maîtres d'ouvrage, c'est impensable. Pour certains services qui ont en charge donc, de le contrôle de la construction, c'est non réglementaire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur des bâtiments provisoires, considérant que l'éphémère ou le provisoire échapperait donc à la règle classique. Mais en me disant, de toute façon, qu'est-ce qui est provisoire et qu'est-ce qui est éphémère, quoi. Il suffit de voir la vitesse à laquelle la société de consommation dans laquelle nous sommes est capable de démolir des bâtiments de très bonne qualité et des bâtiments qui étaient pérennes. Voilà, parce que pour des raisons de spéculation ou de consommation, des choses sont détruites. Et donc, très tôt, je me suis dit, j'ai tout le temps me mettre dans une situation d'imprévu, d'à peu près, et je vais toujours mettre tout le monde au courant de tout. C'est-à-dire que je ne vais pas cacher, je ne vais pas faire croire que, mais je vais donc raconter à tout le monde, y compris à l'élu ou à la collectivité qui recevra donc cette construction éphémère, je vais donc toujours raconter. Et je vais raconter cela... en ayant toujours au centre l'homme, puisque le bâtiment est fait pour l'homme et que le bâtiment est construit pour l'homme. Et donc, très tôt, en France, il y a un label qui s'appelle haute qualité environnementale. Et donc, j'ai toujours barré le haute qualité environnementale en plaçant par haute qualité humaine. Donc, ce que j'appelais la HQH. Voilà. Et donc, en faisant ça, j'ai lentement transformé des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, et j'ai changé la taille des bâtiments ou des constructions sur lesquelles j'intervenais. Et comme très souvent, c'était des bâtiments qui étaient liés à la culture, on me reprochait d'aller à la facilité, c'est-à-dire d'aller en fin de compte sur ce qui est considéré comme peut-être apparenté à l'art ou... comme étant apparenté à l'expérimentation, parce que l'art est considéré quand même comme expérimental. Et je donnais toujours comme exemple, on ne peut pas faire une œuvre qui préparerait l'œuvre. Vous voyez, c'est pas possible. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui va faire un tableau, fais-moi le tableau pour savoir si en effet le tableau est bien. Donc, on ne pourrait pas avoir un danseur qui recruterait par appel d'offres le mieux-disant danseur. On ne pourrait pas faire un spectacle où on ne ferait rencontrer les gens que la veille de la première. Il y a 1000 heures de travail pour une heure de représentation. Vous voyez. Donc, comment choisir un ouvrier? Comment choisir une entreprise? Comment éventuellement ne pas décrire la chose qui est irreprésentable, qui ne le sera que quand elle se représentera? Voilà. Donc, c'est vrai que travaillant beaucoup pour le monde de l'art, on me disait, mais c'est facile. Alors, j'avais beau dire, c'est quand même difficile. Quand moi, je travaillais pour Peter Brook et qu'on a fait Les Bouffes du Nord, c'est un théâtre quand même. Donc, pourquoi ce théâtre, tel qu'on l'a fait, on est considéré comme étant un modèle, puisque quand Peter Brook se déplaçait, on reproduisait l'esthétique du théâtre, alors que nous, on l'avait choisi parce qu'il n'était pas cher et qu'il avait pris feu. Et donc, il était noir. Mais ce n'est pas nous qui l'avons fait noir. Il était comme ça parce que il était abandonné et qu'un maçon l'occupait et nous, on l'a pris tel quel. Et on l'a fait nous-mêmes. On a cassé nous-mêmes le proscenium, on l'a rempli. Et pendant ce temps-là, il montait une pièce pendant qu'on faisait les travaux nous-mêmes. Et pourtant, le monde entier allait voir les pièces de Peter Brook. Quand j'ai travaillé pour Giorgio Strehler, qui est le plus grand metteur en scène italien, j'ai fait des bâtiments pour lui. Comme ça, enfin, c'est lui qui les a faits, c'est moi qui les ai dessinés, ou c'est lui qui les a conçus, et c'est moi qui ai aidé à la construction. Et est-ce que vraiment j'étais l'architecte? Quand on a fait donc Zingaro à Aubervilliers, il en avait assez de tourner dans un chapiteau, on a dit tiens, on fait un bâtiment fixe. Est-ce que c'est moi qui l'ai dessiné, c'est lui qui l'a dessiné? On n'avait pas l'argent, puisqu'il le payait lui-même. On a donc décidé de créer une entreprise. Et je me posais toujours la question, pourquoi on ne pourrait pas faire de l'architecture comme le cinéma? En fin de compte, on se réunit, toutes chaînes confondues, on produit et on dissout après. Donc, vous voyez, on a créé une entreprise. L'entreprise en a recruté les meilleurs, puisque nous, on a recruté des charpentiers voilà, qui étaient d'ailleurs des tâcherons qui travaillaient pour les grandes entreprises. Mais nous, on s'est associé à eux. On ne les a pas pris comme charpentiers. C'est eux qui ont acheté le bois, par exemple. Alors, très souvent, dans les grandes entreprises, les charpentiers qui viennent pour monter des charpentes très complexes, on leur met des fois les matériaux tels qu'ils ont été achetés. Donc, c'est eux qui ont acheté le bois. Après, c'est nous-mêmes qui avons créé l'atelier de construction, qui était sur le terrain même de la construction. Donc, on a donné les conditions de travail qu'on ne donnerait pas d'habitude. Et puis, ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui. Et donc, c'est assez drôle parce qu'on a construit ce bâtiment, on pourrait dire sans... Voilà, avec une curiosité telle que récemment, hein, parce qu'il devait le démolir, et il fallait donc un permis de démolir. Et donc j'ai recherché le permis de construire à la ville d'Aubervilliers. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de permis de construire. Tout au moins, moi j'avais déposé des documents de permis de construire, principalement pour les pompiers, parce que c'est eux qui étaient les plus exigeants. Mais la ville n'a pas enregistré ce permis de construire, parce que le terrain sur lequel je le construisais n'était pas classé pour construire un théâtre équestre. Ce n'était donc pas moi qui me mettais en irrégularité, c'est la ville qui acceptait que je construise un théâtre parce que le maire le voulait, mais il était classé donc, au plan d'occupation des sols comme terrain pour recevoir un hôpital, dont le maire savait qu'il ne construirait pas l'hôpital. Mais il ne pouvait pas dire devant ses administrés qu'il revenait sur la construction de l'hôpital pour mettre des chevaux quand même. Vous voyez, ce n'est pas possible. Alors, il a en fin de compte pris les documents pour les faire circuler dans ses services pour être sûr qu'en effet, on ne construisait pas n'importe quoi. Mais il ne l'a pas enregistré comme permis de construire. Oui. Donc, ce n'est pas pour tout le temps déroger, c'est pour tout le temps ramener la vie au centre de la construction. Au centre de l'architecture. Il n'y a pas d'architecture sans la vie totale. Il n'y a pas d'architecture que quand il n'y a que la conception, ou quand il n'y a que la commande, ou quand il n'y a que l'usage. Et donc, c'est tout le temps pour la ramener, et c'est tout le temps on la ramène pour que tout le monde prenne ses responsabilités. Ce n'est pas pour rentrer dans une irresponsabilité en disant « vous faites n'importe quoi », car je pense que la réglementation donne un comportement d'irresponsabilité, parce que la réglementation, elle permet à chacun, dans son secteur spécialisé, de dire ma réglementation ou la réglementation à laquelle je suis soumis, je la respecte, peu importe si dans l'assemblage des réglementations, il y a une contradiction, des fois dramatique. Mais on dit, c'est pas grave. Moi, dans mon secteur, je suis en règle. Et après, on sait bien que quand il y a un drame, un contentieux, on est tous responsables. Alors donc, moi, c'est plutôt pour dire, soyons tous responsables, a priori, ensemble, et soyons jugés, a posteriori, l'objet réalisé. Et donc, c'est un peu pour introduire ce que Christophe dit, c'est qu'on me dit tout le temps, oui, mais toi, c'est facile, t'as le bras long. Moi, j'ai pas le bras long. C'est parce que comme ça m'intéresse à tous les échelons, je peux parler à un même niveau à un ministre qu'à un employé de la voirie. Voilà, parce que peut-être que le ministre a été le maire ou sera, ou étant maire, sera le ministre, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas un bras long, mais j'ai besoin de raconter à toute échelle. Et donc, du coup, à un moment donné, on me disait, mais toi, tu y arrives parce que tu as le bras long. Ça m'énervait, parce que vraiment, je ne l'ai pas. Et ensuite, je disais, mais pourquoi, en effet, ce que je fais n'est pas une jurisprudence. Comme vous le savez, toute la loi humaine n'est constituée que par un millefeuille de mise à l'épreuve de la loi. Il n'y a pas de société humaine développée sans loi, et il n'y a pas de loi humaine sans interprétation de la loi. Ça devient une loi coercitive. Et donc, pour que la loi ne soit pas coercitive, il y a donc, depuis le droit romain, ce qu'on appelle une lacune. La loi n'est jamais écrite complètement. Parce que si elle est écrite complètement, elle devient un règlement, elle est applicable. Alors que la loi, elle est faite pour, en effet, régler notre vivre ensemble, au sens d'un commun qui nous permet de vivre ensemble. Et c'est ce qui fait... Enfin, la société a besoin de loi pour être société. Et donc, cette loi, elle est volontairement rédigée par le législateur avec une lacune. Et cette lacune, elle permet de faire rentrer le cas particulier. Parce que s'il n'y a pas de cas particulier, bon, ben voilà, tout le monde serait en prison ou les gens refuseraient la loi. Et donc, c'est parce qu'en effet, on met à l'épreuve de la loi le cas particulier, que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a droit à la défense. C'est pour ça que d'ailleurs, la plaidoirie ou la justice, elle joue son rôle bien plus dans l'explication ou dans l'illustration du cas que l'on aborde, bien plus que dans l'enfermement dans une prison. C'est le procès qui fait, en fin de compte, la société. Car les faits sont apportés publiquement, et c'est parce qu'ils sont apportés publiquement qu'ils sont défendus, et après que le jugement est donné. On pourrait presque dire que, voilà, jugement donné, ça devrait suffire. À part quelques personnes, pour la plupart, ça devrait suffire. L'enfermement est une mauvaise chose. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, mais vous voyez, c'est une naïveté de vieillard, presque, voilà, de dire, ah bah tiens, à la fin de ma vie, et si on faisait une loi ? Alors, commencer à, donc, ayant le bras long, à dire à d'autres, quand même, ça serait pas mal que toutes ces jurisprudences, les miennes, mais vraiment pas que les miennes, toutes celles que j'ai rencontrées, on pourrait en faire une sorte de, déjà au moins, d'un débat pré-législatif pour voir ce que ça pourrait donner. Alors, ça a été, comme vous pouvez l'imaginer, dans une démocratie, c'est très compliqué. Mais si on respecte le législateur, ce qui n'est pas le cas en ce moment, dans le grand débat là, qui existe chez nous en France, on considérait d'un seul coup que tout ça n'existe plus, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de corps intermédiaire, mais le législateur, donc le politique, l'élu, la société civile, donc qui rencontre et qui est reçu par le législateur pour se faire une idée éventuellement de ce qui est sur le terrain n'est pas possible, voilà, et qui après en fera donc un outil commun et le soumettra au vote et de deux assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, mais à partir de ça, bon, j'ai l'impression de retrouver un monde que j'avais perdu quand même, quand je militais très jeune, j'avais eu un doute sur le fonctionnement des fois un peu des institutions politiques, mais là je m'étais dit, allez, prends le temps long, on y va. Donc j'ai mis 3 ans à remuer terre et ciel pour avoir une loi qui a quand même été écrite et dont le titre qui restait dans cet article était un titre, comme l'a dit Christophe, sur quoi j'ai tenu jusqu'au bout, qui voulait dire « permis de faire ». Mais au sens, dans une démocratie, donc il y a un permis de faire, c'est pas parce que moi je suis, mettons, cuisinier et que j'ai le droit d'avoir un couteau avec une lame qui dépasse la largeur de ma main, que d'un seul coup, je ne vais pas, avec ce couteau, me retourner pour tuer mon chef ou mon apprenti, quand même. Donc, vous êtes bien d'accord qu'aujourd'hui, on regarde des informations et on voit des gens qui font des attentats avec des couteaux. Alors, on dit, on ne va pas interdire tous les couteaux. On peut dire que les armes à feu, bon, voilà, c'est mieux de ne pas les avoir, et ainsi de suite. Les armes de poing, je ne sais pas quoi, mais les couteaux, alors, on mangerait avec les doigts, je ne sais pas quoi, ce serait pas possible si on aurait un doute sur tout. Alors, j'ai commencé à dire, bon, voilà, il y a des outils qui peuvent paraître dangereux, il y a des gens qui pourraient ne pas respecter des comportements sociaux ou des comportements civilisés, mais on les jugera a posteriori, on les jugera après, on les jugera. Si un immeuble s'effondre, d'ailleurs ça arrive, des mecs voilà, qui font des immeubles qui s'effondrent, bien qu'ils respectent la loi, qu'il y ait le bureau de contrôle, et ainsi de suite. Alors du coup, je travaillais sur ce permis de faire, et puis j'étais un peu fatigué, j'ai levé le pied, et un jour on me dit, oh, bonne nouvelle, la loi a été promulguée. Alors, j'ai regardé l'article de la loi et j'ai vu en effet ce que c'était que les allers-retours, les amendements, les machins et tout. Il restait le titre. J'ai dit, bon, c'est bon, on va faire avec. Mais comme vous le savez, une loi, quand elle est promulguée, il faut qu'elle soit. Les décrets d'application doivent être passés. Et comme le législateur, bon, il me connaissait un peu, il s'est dit, bon, il est capable d'utiliser la loi sans les décrets d'application, il avait mis dans la loi une chose qui était coercitive, qui disait que pour que cette loi soit utilisée, parce qu'il pensait qu'il n'y aura jamais les décrets, il faudra donc créer une commission ad hoc. Voyez donc, c'est-à-dire qu'il avait mis une dimension de contrôle avant, quoi. Alors je me dis, bon, ça commence bien. Et puis ensuite, grâce à une amie qui travaillait chez le Premier ministre à l'époque, elle s'est dépêchée pour que les décrets d'application passent avant le premier tour des élections présidentielles. Et donc, on a le décret d'application qui passe. Et dans le décret d'application, le mec, il en règle encore un coup, il en retire encore les 2/3 de la loi, voilà, machin, parce que moi, je voulais sur l'incendie, l'handicap, la performance énergétique, le réemploi, l'acoustique et...
Patrick, peut-être on va préciser ce qu'était cette loi, parce que tout le monde peut-être ne sait pas, c'est-à-dire c'était quand même une loi qui était... Oui, mais si, on va rentrer un peu dans les détails.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi ?
Non, qu'est-ce que c'était que la loi du permis de faire ? C'est-à-dire qu'est-ce qui était prévu ?
En résumé, là, j'avais déjà résumé, là. J'avais déjà résumé, parce que, voilà, c'est où, en effet, on survole, mais j'ai déjà résumé. C'est que... Alors, on va partir de la réalité. Pour construire, il faut appliquer principalement des règlements. Principalement des règlements. Les règlements sont issus des lois. Et donc, je voulais remonter au-dessus du règlement pour faire une loi sur l'architecture qui intégrerait un chapitre dans lequel il y aurait, comme pour les œuvres d'art, une autorisation de construire en interprétant la réglementation et la loi. Voilà. Un peu comme je disais tout à l'heure par rapport à une œuvre d'art, comme peut l'être donc un ballet ou un film ou un tableau, on choisit un artiste, on lui fait confiance, il fait son œuvre, il la représente au public et il est jugé. Il peut avoir fait une œuvre magnifique et être jugé mal, et une œuvre magnifique et être jugé bien. Mais c'est comme ça. Alors, la création artistique est comme ça. Comme je pense que l'architecture appartient à la création, j'ai travaillé sur une loi qui s'appelle Création, architecture et patrimoine. Voilà. Et je voulais lier l'architecture et le patrimoine. Alors c'est très compliqué, mais c'est parce que je pense que dans le patrimoine, l'histoire parle et quelquefois, l'histoire est plus forte que le règlement. Voilà. Alors, comme il faut aller vite, je pensais que c'était un sujet quand même, voilà, c'est un sujet assez important. J'ai donc écrit cette loi, j'y suis pas arrivé parce qu'elle a été réduite. Et j'ai donc décidé, puisque cette loi a été abrogée par le nouveau président de la République, parce que par ordonnance on peut abroger une loi, j'ai donc décidé de prendre ce qu'avait contenu la loi et de la mettre à l'épreuve sur le terrain, comme ce que j'ai fait pour tous les bâtiments dont Christophe parlait et que j'ai construit. Et donc en la mettant à l'épreuve sur le terrain, c'était de dire, est-ce que vous m'autorisez de prendre des cas, et ces cas, en les mettant à l'épreuve, de révéler que la chose est possible et que même elle produit du sens, elle produit une architecture, démocratique. Elle est l'expression d'une démocratie, elle n'est pas l'expression d'un désordre qui rejetterait la loi, mais elle est l'expression démocratique. Et donc cette opération sur laquelle je travaille s'appelle la preuve par 7. Elle a donc pris 7 sites dans 7 échelles, car l'échelle détermine aussi une interprétation de la loi. Comme vous le savez, un village de moins de 50 habitants et une commune ou une métropole de 300 000 habitants, face à un problème de logements sociaux ou de pourcentage de logements sociaux, c'est inapplicable pour l'un ou inapplicable pour l'autre. Et donc voilà, donc parti dans une opération où, en effet, j'en verrai sûrement pas le bout, donc sur ces 7 échelles. Mais tout ça pour revenir sur le récit, si vous voulez, parce que on oublie quand même. Pardon ?
Non, mais on va.
On arrête ? Non, moi je peux m'arrêter quand je veux. Hein.
On va.